Imaginons un peu la scène. On a des boiseries impeccables, des costumes sur mesure, un silence vraiment feutré.
Ouais, le grand luxe institutionnel, quoi.
C'est ça. Une architecture qui est minutieusement conçue pour imposer le respect, bref, la représentation diplomatique classique.
Le sanctuaire d'un État sur un territoire étranger, en fait. C'est censé être solennel, ordonné et surtout totalement intouchable.
Et ça, c'est la théorie. Parce que le jeudi 3 septembre 2026, à Bruxelles, cette image de contrôle absolu, elle a littéralement volé en éclats.
Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
Le sol, les meubles super luxueux, les costumes des gens sur place, tout s'est retrouvé soudainement recouvert sous une énorme couche de poudre blanche. De la farine.
Partout.
Partout, ouais. Et c'était pas une farce ou un accident de cuisine, tu t'en doutes. C'était une action politique super ciblée, organisée en plein cœur d'une institution officielle.
Et là, on bascule instantanément d'un simple incident matériel à une vraie collision institutionnelle majeure.
C'est clair.
Utiliser l'espace diplomatique comme théâtre d'une contestation physique, ça crée une onde de choc qui, franchement, dépasse largement les murs du bâtiment.
Eh bien, notre exploration du jour va justement s'attacher à décortiquer cette onde de choc. On se base sur un article et une enquête super détaillée de Félicité Amanyaya Ravincent.
De Radio Tam Tam Africa.
Exactement. Et notre mission aujourd'hui, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est de comprendre la mécanique de cette intrusion à l'ambassade du Cameroun en Belgique. On va soulever le capot en quelque sorte.
Pour observer les tensions profondes entre la diaspora militante et le gouvernement de Yaoundé. Mais juste avant d'aller plus loin, je pense qu'il faut faire une petite mise au point.
Vas-y, je t'écoute.
Il faut vraiment rappeler à notre auditoire qu'on marche aujourd'hui sur un terrain politiquement très miné. C'est un sujet qui est hautement polarisé.
Ah ouais, extrêmement sensible.
Voilà. Donc notre démarche ici, c'est vraiment d'utiliser les faits rapportés par la source pour comprendre l'anatomie de la crise. On ne va pas distribuer des bons ou des mauvais points, on va exposer la logique des militants avec la même rigueur qu'on détaillerait les positions officielles du gouvernement camerounais.
C'est super important de le préciser. On est vraiment là pour rapporter les faits de manière impartiale, sans jamais prendre parti.
Tout à fait. Décrypter les stratégies de chaque camp, c'est notre seul et unique mandat aujourd'hui.
Donc, le cadre est posé. Et la grande question qui va nous guider, c'est comment une simple histoire de distribution de pain et de sardines a pu, au final, donner son nom à un mouvement capable de paralyser des ambassades?
C'est fou quand on y pense.
Mais grave, et surtout, qu'est-ce que cette tempête de farine nous révèle sur le conflit entre la liberté d'expression et l'inviolabilité diplomatique?
Pour bien saisir tout ça, il faut qu'on retourne sur les lieux. On est au 131 avenue Brugmann.
Dans la commune de Forest.
C'est ça. Et ce bâtiment, c'est pas juste une petite annexe, hein. C'est le siège de l'ambassade du Cameroun pour la Belgique.
Et ça fait aussi office de représentation auprès de l'Union européenne, non?
Exactement. Sous la direction de l'ambassadeur Daniel Evina Abbé. C'est vraiment un carrefour stratégique.
Et du coup, les militants n'ont pas du tout choisi ce lieu au hasard. Quand tu regardes les vidéos qui ont tourné partout sur les réseaux sociaux, le mode opératoire, il est très spécifique.
Très direct, ouais.
Des individus qui forcent l'entrée, qui balancent de la farine à la volée sur les locaux, sur les gens, ils brandissent des drapeaux, des pancartes.
Ils hurlent des slogans, c'est le chaos total.
Et ce que je trouve fascinant dans l'article, c'est que face à ces images virales, la réponse des autorités a été le silence absolu.
Un silence institutionnel vraiment lourd de sens. Au moment où Radio Tam Tam Africa publie son enquête, il n'y avait eu aucune communication officielle.
Rien du tout.
Rien. Ni de l'ambassade, ni de la police belge, ni du Cameroun. Pas de bilan des dégâts là, pas d'infos sur des arrestations. Et en fait, ce vide de communication, les manifestants s'en sont emparés pour imposer leur propre récit.
Et ces manifestants, ils opèrent sous un nom assez singulier, je dirais, la BAS, la Brigade anti-sardinard.
Voilà. Le groupe de Bruxelles, c'est la branche belge de cette organisation. Et ce mouvement, il sort pas de nulle part.
Non, c'est clair, ça remonte à quelques années.
Ça remonte à l'élection présidentielle de 2018 au Cameroun. Ça a été une période de grosses tensions politiques. La BAS est née en France d'abord, au sein de la diaspora.
Avec un but très clair, non?
Ouais, une opposition frontale au président Paul Miya, à son gouvernement et en gros à tous les relais du pouvoir.
Mais attends, on doit parler de ce nom anti-sardinard. C'est génial d'un point de vue symbolique. Historiquement, la nourriture s'est souvent utilisée en politique, genre les jets de tomates.
Ou les entartages, oui.
Exactement. Mais là, le terme sardinard, ça raconte une vraie histoire sociale. C'est pas juste pour la blague.
Bah non, ça renvoie à une pratique très spécifique, la distribution gratuite de pain et de boîtes de sardines pendant les meetings politiques.
Ah, d'accord.
Du coup, pour la basse, accepter ces sardines, c'est en gros vendre son soutien politique pour un casse-croûte.
C'est hyper péjoratif, en fait.
Totalement. C'est devenu une insulte pour désigner les sympathisants du régime, ceux qui sont soupçonnés de clientélisme.
C'est fou comme réappropriation. Ils s'appellent anti-sardinard, et pour protester, ils utilisent de la farine, encore de la nourriture.
Mmh.
Ils retournent complètement le symbole contre le pouvoir.
C'est très visuel, ouais.
Mais du coup, je me demande un truc. Choisir l'enfarinage, est-ce que c'est une stratégie brillante pour attirer les médias sans utiliser une violence extrême? Ou est-ce que ça risque pas de décrédibiliser leur message de fond?
Ben, c'est le gros risque.
Parce que le public, il voit de la poudre blanche, il voit le bordel, mais est-ce qu'il écoute vraiment le message vœu?
C'est la question centrale. L'ABS, elle est présente en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis. Et il marche toujours sur ce fil du rasoir.
Entre l'action coup de poing et le vandalisme, quoi.
Voilà. Leur méthode interrompre des événements, enfariner des diplomates, c'est fait pour briser l'image de stabilité de l'État. C'est une humiliation visuelle délibérée, mais leur risque de discrédit est immense.
Surtout que leur message, il était littéralement écrit sur les pancartes au milieu de la farine. Ils n'étaient pas là juste pour salir les tapis. Ils exigeaient la libération de deux hommes bien précis.
Exactement. Et comprendre qui sont ces deux hommes, c'est comprendre toute la fracture entre cette diaspora et la justice du pays.
Alors, on a un premier nom, Jacques-Bertrand Mangue. Franchement, c'est un profil politique assez hybride.
Très vocal sur les réseaux sociaux, ouais. C'est un activiste, un entrepreneur, et il a un parcours partisan assez complexe.
Bah, l'article cite des sources locaux qui expliquent qu'il a d'abord été au PCRN.
Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale.
C'est ça, une opposition plutôt jeune et pragmatique. Mais ensuite, il est passé à l'UPC, l'Union des populations du Cameroun.
Et ça, c'est pas n'importe quoi. C'est le parti historique de l'indépendance, avec une charge anticoloniale très forte.
Ouais, ça fait un grand écart. Ça montre un mec difficile à classer, qui critique aussi bien le pouvoir que le reste de l'opposition.
Et cette liberté de ton l'a mené droit vers une grosse bataille judiciaire. Il a été arrêté et placé en détention le 1er juillet 2026.
Et le 17 juillet, le tribunal de Douala Bonanjo lui a refusé la liberté provisoire.
Exact. Et c'est là qu'on voit le fossé géant entre la version des autorités et celle des militants.
Ah bah c'est le jour et la nuit. Sa défense, avec la célèbre avocate Alice Noukom, dénonce une sanction purement politique. Apparemment, tout serait parti d'une bête altercation où Mangue filmait un policier et le policier lui aurait cassé son téléphone.
Selon sa défense, oui, pour faire taire un observateur gênant.
Mais les autorités, elles disent quoi exactement?
Elles maintiennent des charges de droit commun pures et dures. Violence sur fonctionnaires, entrave à un service public et diffamation en ligne. L'État rejette complètement l'idée de prisonnier politique.
Et même sur l'endroit où il est incarcéré, il y a une sorte de guerre de l'information. L'ABS crie sur tous les toits qu'il est à Douala.
Ce qui est vague, ouais.
Alors que l'enquête journalistique précise bien, après vérification, qu'il est à la prison de Newbel. Il bénéficie de la présomption d'innocence, d'ailleurs. Mais la communication militante simplifie à fond pour mobiliser.
Alors que le dossier de Mangue, malgré tout, on a des dates, on a des chefs d'inculpation. C'est presque transparent comparé au deuxième cas défendu par les manifestants.
Ah oui, le cas d'Alhaji Loukman Barbakassim. Ou Loukman, ça s'écrit de plein de façons.
Proche de l'opposant Issa Chiroma Bakary, oui.
Là, on rentre dans un niveau de flou, c'est ahurissant. L'absence d'informations officielles crée vraiment un terreau pour toutes les rumeurs. Tu peux nous rappeler ce qui lui est arrivé, Sam?
Alors, selon la plateforme L'Union pour le changement, et ça a été relayé par Actu Cameroun en avril 2026, Loukman serait rentré de Paris pour les obsèques de son père.
Et c'est là que ça dérape.
Il aurait été arrêté par des agents dès sa sortie de l'avion à l'aéroport de Douala. Et depuis, la machine institutionnelle, silence radio.
C'est fou. L'ABA affirme avec certitude qu'il est à la prison de Kondengi à Yaoundé.
Mais l'enquête de Radio Tam Tam Africa est très claire. Aucune décision publique, aucun document ne confirme son statut, ses charges ou même où il est détenu.
C'est un vide total. Et c'est là que je me demande, ce manque de clarté de la part des institutions, est-ce que ça finit pas par légitimer, aux yeux des militants, des actions complètement illégales comme celle de Bloussel?
Bah, le silence de l'État agit vraiment comme un incubateur. Si l'État communique pas, la diaspora se dit que l'arbitraire règne. Ils estiment que puisqu'on leur répond pas par le droit, ils sont en droit de forcer la porte.
C'est exactement ça. Ils ciblent l'ambassade parce que c'est la présence institutionnelle la plus visible pour eux.
C'est une stratégie de l'externalisation. Taper à Bruxelles plutôt qu'au Cameroun, c'est utiliser un mégaphone géant. Ça interpelle 6 acteurs d'un seul coup.
Attends, 6 ? Vas-y, fais le compte.
1. Le gouvernement Yaoundé, bien sûr. 2. La Belgique, l'État hôte, qui doit assurer la sécurité. 3. L'Union européenne, vu qu'on est à Bruxelles.
Ok, ça fait 3.
4. Les ONG des droits humains. 5. Les médias internationaux, qui adorent les images chocs. Et 6. La diaspora elle-même, pour galvaniser les troupes ailleurs.
C'est hyper calculé. Surtout que ce n'est pas la première fois à Bruxelles. En mars 2025, le ministre Mounouna Foutsou et le même ambassadeur avaient été pris à partie.
Et l'ambassade avait parlé d'agression inadmissible, oui.
Et en juin 2021, une autre intrusion avait même déclenché une crise diplomatique. Yaoundé avait carrément convoqué l'ambassadeur de Belgique. Donc Bruxelles, c'est vraiment devenu un champ de bataille régulier.
Et c'est là qu'on touche au nœud du problème. On a un choc frontal entre deux droits. D'un côté, la liberté d'expression et le droit de manifester contre des détentions perçues comme arbitraires.
Et de l'autre,
la Convention de Vienne. C'est le socle de la diplomatie mondiale. Les locaux diplomatiques sont inviolables, point d'art. L'État belge a l'obligation de les protéger. Pénétrer de force et jeter de la farine, ça dépasse largement le cadre pacifique.
Mais c'est le paradoxe ultime, tu trouves pas? Les militants demandent le respect du droit, ils veulent de la justice pour Mang et Loukman, mais pour se faire entendre, ils doivent eux-mêmes violer le droit international, en l'occurrence la Convention de Vienne.
C'est tout le problème.
Est-ce que la fin justifie les moyens quand les moyens finissent par effacer le message en cours? J'ai l'impression qu'on ne parle plus des prisonniers, on parle juste de la farine et des dégâts.
Exactement. Le vandalisme donne aux autorités l'argument parfait pour esquiver le fond du problème et se concentrer uniquement sur le maintien de l'ordre.
Donc en gros, au-delà des jets de farine de ce 3 septembre 2026, cette affaire, elle met en lumière une tension énorme.
Une tension entre l'exigence de transparence judiciaire d'une diaspora hyperconnectée et le besoin de sécurité des institutions étatiques.
Et comme le souligne très bien Radio Temtam Africa, la défense des droits humains, bah, ça justifie pas la violence.
Non, clairement pas.
Mais d'un autre côté, la sécurité des institutions, ça doit pas non plus servir de prétexte pour ignorer les demandes légitimes de transparence de la justice. Les deux choses doivent coexister.
Tout à fait. Et d'ailleurs, ça m'amène à une dernière réflexion, un truc qui dépasse presque les faits d'aujourd'hui.
Ah, je t'écoute.
Si la diaspora utilise aujourd'hui les réseaux sociaux pour orchestrer des actions physiques et transformer de simples ambassades en scène mondiale, est-ce que le rôle traditionnel de l'ambassade n'est pas devenu obsolète en cours?
Ah ouais, c'est vrai que vu comme ça...
À l'ère numérique, ces bâtiments, c'est plus juste des bureaux administratifs. Ce sont devenus les cibles physiques de vraies guerres d'informations virtuelles.
C'est fou. Comment la diplomatie mondiale va devoir se réinventer au final pour faire face à des citoyens qui sont à des milliers de kilomètres, mais qui peuvent, genre avec un peu de farine et un smartphone, créer une crise internationale instantanée?
C'est le grand défi de la diplomatie de demain, j'en suis convaincu.
C'est une excellente question sur laquelle méditer. Merci d'avoir exploré tout ça avec moi. Et pour ceux qui nous écoutent, on espère que cette plongée au cœur de l'actualité vous aura donné des clés pour comprendre ces enjeux complexes. À très bientôt pour une nouvelle analyse haute.